C'est la deuxième heure de ce 1237e Sweet Home Chicago et en deuxième heure depuis sa région bordelaise, Lenny Lafargue nous raconte sa vie de musicien qui débuta dès les années 70, ses expériences de musicien de rue, les belles rencontres qui en ont découlé. On y évoque tour à tour Sonny Terry et Bernie McGee, Ray Charles, Furry Lewis, Freddie King, Memphis Slim avec qui Lenny Lafargue s'est produit, Jacques Garcia, Otis Grant, Pascal Delmas, Caddy Joe, Michel Roland, Eric Dia, Raoul Fissette, Jimmy Johnson, Larry Bell, Jacques Perrin et Frank Goldwasser. Sans langue de bois, vraiment, avec Lenny Lafargue, on parle du blues en français et du blues en anglais, des programmateurs de festivals, de son travail social auprès de jeunes délinquants, du business, de la scène blues, des rapports humains dans leur ensemble. Une interview, vous allez le voir, pleinement humaine, dénuée de tout formalisme, où la musique de Lenny Lafargue résonne comme de belles tranches de vie qu'il faut cueillir fraîches, loin des villes, devant une canne à pêche, à l'ombre des arbres, en pleine nature. Son dernier album s'intitule Rouler, rouler, et c'est juste à ça qu'il faut penser le plus souvent possible, laisser le bon temps rouler. Voici Lenny Lafargue. Je suis au téléphone avec Lenny Lafargue. Bonjour Lenny.
Salut Marc.
Lenny Lafargue, tu es originaire de la région bordelaise où tu habites toujours. Tu es guitariste, chanteur, auteur, compositeur, interprète de blues. Et on peut dire que ta particularité est d'écrire et de chanter bien sûr en français. Et ta déjà longue carrière permet de dire que tu as l'occasion de te produire avec de véritables légendes du blues, comme Memphis Slim par exemple, on aura l'occasion d'en parler. Mais tu as assuré aussi de nombreuses premières parties prestigieuses comme Jimmy Johnson, Luther Allison, John Hammond, Larry Bell, Otis Grant, Louisiana Red, Lazy Lester, mais aussi Benoît Blueboy. Mais tout d'abord, est-ce que Lenny, tu peux évoquer avec nous ton initiation et les débuts de ton parcours musical? Comment est-ce que tu es tombé dans la marmite?
Alors là, c'est toute une histoire.
Oui, j'imagine.
Ouais, non, c'est assez, certains vont dire mystique. Et moi, je ne sais pas quel terme employer. Je ne sais pas comment ça s'est passé tout ça. Je ne sais même pas pourquoi j'en suis là. En fait, c'est venu tout seul. C'était écrit, certains diront.
Dès l'enfance?
Ouais. En fait, bon, tu sais, c'était les années 60, par là. Moi, j'étais un gamin, ma sœur faisait des booms. Bon, moi, j'étais assez réceptif à ce rock anglais qu'on écoutait, ouvre américain, les hits, tout ça. Voilà. Et donc, il y avait des booms où ma sœur avait des copains qui amenaient des 45, tu vois.
Ouais.
Bon, bien sûr, il y avait des hits, des Stones, des Kings, tout ça. Ça m'intéressait, bien sûr. Mais dans le tas, j'ai trouvé un truc, avec mes yeux d'enfant, à l'époque de gamin, il y avait un espèce de 45 de Sony Terry, Bowie, Maggie.
Ah oui.
Pourquoi? Je ne saurais jamais pourquoi, d'ailleurs. Ça m'a interpellé et j'ai volé le 45. Je ne saurais pas le dire.
Non, mais maintenant, il y a prescription, peut-être, parce que c'était il y a une petite cinquantaine d'années, on va dire.
Oui, oui, oui. Ah. J'étais gamin, mais je me suis emparé de pas vraiment un vol, parce que, bon, les gens repartaient avec leur 45, et moi, celui-là, j'ai mis de côté, bon, voilà.
Ouais, ouais,
et j'ai écouté ça, j'ai dit, waouh, c'est génial, ça. C'est pas ce qu'on entend, c'est pas du rock-pop anglais, c'est pas ou américain, mais voilà. Alors, ça a démarré comme ça. Après, j'ai eu la même sensation avec un truc de Ray Charles. Quand j'ai écouté ça, voilà, j'ai été, mais vraiment harponné, j'ai dit mais c'est Dieu ça. Dieu, c'est ça Dieu. C'est que j'avais été au catéchisme, mais je me suis dit, ils auraient dû m'en parler de ça.
Oui, parce que là, tu serais vraiment allé tous les dimanches, du coup, à l'église.
Et alors, voilà. Et après, je suis rentré dans un magasin parce que je jouais dans la rue, si tu veux. Je voulais devenir un grand bluesman. Donc, j'avais pris une guitare, un porte-harmonica. J'avais 12 ans, 13 ans. Et je me suis dit, mais c'est ça que je vais faire. Si je joue dans la rue, je vais devenir un grand bluesman. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et un jour, je suis rentré dans un magasin. J'avais un peu de pognon pour acheter à 12 ans. T'as pas besoin de beaucoup de fric. Et je suis tombé sur Furry Lewis. Je suis peut-être le seul à avoir acheté l'album, d'ailleurs. Quoique, je pense que c'était Barclay qui avait sorti ça. Une réédition, je sais pas, même pas. I believe I buy me a graveyard of my own. Believe I buy me a graveyard of my own. I'm gonna kill everybody that have done me wrong. Et j'ai vu qu'il jouait dans son lit. Il avait enregistré dans son lit. J'ai dit, ah, c'est formidable, il a enregistré dans son lit. Et donc j'ai acheté ce truc-là, j'ai adoré. Donc j'ai compris qu'il jouait avec un slide, mais alors j'ai essayé de faire pareil. Bon, c'était un peu, voilà. Et après, le dernier truc, c'est que sur une boom, un peu plus tard, je suis tombé sur un Freddie King. Alors là, ah j'ai dit, waouh. Non mais lui, j'ai dit lui, ah mais lui, je jouais comme ça, de l'électrique. Mais déjà, j'avais compris que s'il jouait de l'électrique. Ben voilà un petit peu, et après, il y a toute une histoire, c'est long là, parce qu'il faudrait faire un livre.
Mais peut-être après, que si c'est un, veux, livre, ouais. Un livre qui reste à écrire, Lenny, mais tu peux déjà en évoquer un petit chapitre. Tu es devenu guitariste harmoniciste de façon autodidacte en fait, c'est ça?
Oui, je suis autodidacte. C'est-à-dire que j'ai résidé en Angleterre à l'époque du Blues Boom. Enfin, je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Hein. Si tu veux, là, évidemment, je suis rentré dans les magasins parce que j'étais intéressé. Mais bon, je savais pas comment jouer le blues. Je savais pas. Il y avait rien. Il y avait pas de méthode en France. Il y avait que dalle. Personne jouait ça. Mmh. Même à Bordeaux, dans le secteur. Personne faisait ça, c'est inexistant. Il y avait des groupes de rock, bien sûr, qui faisaient du Led Zeppelin les trois quarts du temps, ou du, si tu veux, du rockabilly, des trucs comme ça, mais il n'y avait pas. Bon, donc j'étais assez emmerdé, quoi. Bon, en Angleterre, j'ai vu des mecs qui jouaient comme des dieux, mais hélas, je regardais et j'essayais de comprendre. Par contre, j'ai acheté des disques, et quand après, je suis rentré en France, ou quand j'avais entendu beaucoup de choses, donc ça, c'est déjà énorme. Si tu veux, quand je suis rentré en France, je me suis dit quand même qu'il faut que j'essaie d'apprendre des trucs, quoi. Bon, j'avais un peu progressé, certes, et j'ai rencontré une fille allemande sur Arcachon, là, et elle est déjà était pro, déjà, tu vois, elle, puis alors moi, je faisais des espèces de blues, tu vois, sur un accord ou deux, avec un bout de slide, n'importe comment, enfin, n'importe comment, je faisais ce que je pouvais. Alors déjà, elle m'a montré quelques trucs, tu vois, House of Rising Sun, tout ça, et puis j'avais des basses un peu de blues, tu vois, et je suis tombé, alors, c'est sur un Américain. Par contre, lui, c'était un pro, mais je sais même pas son nom. Et il est venu faire le bœuf. Il était cool, avait sa femme, là, tout ça, une bonne gueule. Et il s'est mis à jouer. Mais alors là, il m'a subjugué, le mec.
Ouais.
Et on a fait le bœuf. Il me dit, mais t'es pas dans les mesures.
Parce que jouer tout seul, c'est une chose. Des gens comme Lightning Hopkins ou John Lee Hooker sont des gens qui sont à peu près inaccompagnables, hein, parce que t'es pas dans les mesures. Eux, on aurait pu leur dire ça aussi. Mais là, il était question de bœuffer. Et là, effectivement, il vaut mieux que les 12 mesures, elles se terminent en même temps.
Et oui, quoi. Alors il m'a dit, tu vois, il m'a dit, man, you don't play in the bar.
Ah oui.
Bon, alors, on essayait Mississippi Blues, un super blues, là, que j'avais réussi à tourner ça d'oreille. Seulement, j'étais en vrac sur les mesures. Alors, il m'a expliqué tout ça. Et en partant, j'ai dit, ah ben, il faut quand même que j'essaye de voir ça. Donc, pour te dire, j'ai appris de briques et de broc. L'été, il y avait des Belges qui étaient très bons, d'ailleurs. Les Belges étaient super. Et on était en vacances, au camping. Il y avait des Belges qui jouaient, des Anglais aussi.
Il n'y avait pas d'autres Bordelais, mais c'est des touristes, voilà, des Européens qui étaient en goguette sur Bordeaux, Arcachon, et qui ont mis le pied à l'étrier quelque part, c'est ça?
Ouais, c'est ça. J'ai jamais fréquenté des gens à Bordeaux trop.
Ouais.
Jamais, tu vois. Enfin, je te fais une confidence. J'ai jamais trop fréquenté. Je sais même pas pourquoi. Parce que, bon, voilà, j'étais... Bon, en fait, à partir de 16 ans, j'étais plus chez mes parents. Je me démerdais. Je jouais dans les cafés, la rue, partout où on voulait de moi. J'ai rencontré des mecs qui faisaient du cajun, tout ça, du zydeco dans la rue, on gagne du fric, ça marchait à l'époque, c'était plus policé comme maintenant. Et ces gens-là m'ont appris à accompagner, puis moi, après, un peu plus loin, j'avais racheté un dobro, peut-être un des seuls mecs qui faisait du blues dans la région, mais je me rappelle plus son nom, et je jouais dans la rue, voilà, bon. Et donc j'ai appris vraiment de briques et de broc, comme j'ai pu, avec des gens quand même, des bonnes rencontres, parce que cette Allemande, c'était une bonne rencontre, cet Américain, c'était une bonne rencontre. Ces gens après, dans la rue, qui étaient vraiment bons, hein, parce que Il y avait violon, accordéon, mandoline, percussion. J'avais intégré le groupe. Et donc, voilà. Et après, j'ai une copine, ça, c'est fabuleux, qui m'a fait cadeau parce qu'elle était cool. C'était une fille très cool, très hippie, Janice, tu vois, Joplin.
Je vois très bien.
Et elle m'a ramené, si tu veux, un disque des États-Unis, un cours de guitare avec B.B. King qui devait faire 2 minutes, tu vois.
Ouais.
Et j'ai foutu le CD, il était gros comme une feuille de papier cigarette. Et j'ai foutu ce CD là. Et
ah oui, attends, je me souviens. Non, c'était un 45 tours en plastique très très fin, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Ouais, 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 d'accord, je vois très bien.
Et avant ça, si tu veux, j'ai pillé une nana. Bon, ça, je l'ai dit, on m'a interviewé déjà. Et je me redis, j'ai trouvé à Bordeaux une nana qui avait un booker qui vendait des disques. Alors, sur la vitrine, il n'y avait que des variétés et des trucs pop-rock. Et je suis rentré dans le magasin, je ne sais pas pourquoi, et en arrière-boutique, c'était la caverne d'Ali Baba, il y avait des dizaines de disques de blues, des Chess, des Aroulis, des machins. Elle avait dû racheter un stock aux enchères, je ne sais pas quoi.
Ouais.
Et là, évidemment, je me suis servi. Toutes les semaines, dès que j'avais un peu de fric de la manche, j'allais acheter un disque. Je me suis fait une collection redoutable. Et après, je me suis foutu sur les disques incessamment, d'oreilles ragassées. Et je voulais jouer tous les mecs.
Denis Lafargue, il y a une rencontre incroyable avec un monsieur qui s'appelait Memphis Slim. Et je crois que tu l'as accompagné.
Oui, c'est ça. Every day.
Comment ça s'est passé, ça?
C'est-à-dire que, si tu veux, bon, moi, à la base, j'espérais pas faire une carrière musicale.
Ouais.
Mais vraiment pas, tu vois. J'étais à 100 000 lieues d'avoir des plans business comme ils font maintenant, des trucs, des machins. Je m'en branlais royalement. C'est même pas que je m'en branlais, j'y pensais pas. Je pensais pas faire... Il s'est trouvé que, en revenant en Angleterre, après, si tu veux, une vie un petit peu comme ça, là, gitan, dans la rue, SDF, en revenant en Angleterre, évidemment, j'ai rencontré une femme, je me suis marié et j'ai eu un enfant, donc il fallait bien que j'assure un minimum. Donc je suis devenu métallo-soudeur.
Mmh.
Et si tu veux, bon, j'ai joué plus que pour mes loisirs. Bon, voilà. Or, il se trouve que dans ce métier-là, à l'époque, il y avait beaucoup de morts. Voilà. Moi, j'y ai échappé, j'ai eu de la chance. Je ne sais pas rentrer dans les détails, mais au bout d'un moment, une amie assistante sociale m'a dit, mais il faut que tu arrêtes là,
ouais,
parce que tu as un don. Je ne savais même pas que j'avais un don, je savais même pas que... Et tu vois, je savais pas. Elle me dit, tu joues super, quoi, t'as un don, il faut que t'arrêtes cette merde de boulot, là. Merde qui était dangereuse, d'ailleurs, hein, parce que j'ai vu des morts. Ce qu'on montait quand même à des 40-50 mètres, hein. Voilà, bon. Donc, elle m'a proposé, si tu veux, d'animer des ateliers de musique pour des jeunes, si tu veux, des jeunes difficiles, délinquants, voilà.
D'accord.
Et je suis rentré dans un MJC, au centre de Bacalan, un centre social, où j'ai fait ça, et en parallèle, j'ai monté le groupe Mojo Blues, vraiment qui a super marché, parce que je suis tombé sur un guitariste qui avait du métier, qui était un vieux routier, qui avait des plans, machin, il a vu mon potentiel, on a lancé le groupe, et il a trouvé vraiment beaucoup de dates, et ça a décollé. Voilà.
D'accord.
Donc à partir de là, si tu veux, les gens ont commencé à me repérer. Et on jouait sur tout l'Ouest, là, jusqu'à l'Espagne. Et personne n'avait entendu ça. C'était dans les années 75, 76, 77. Les
ouais.
mecs, ils n'avaient jamais vu un groupe jouer cette musique-là. Mais ça n'est, vraiment, c'est pas pour dire, mais ça n'existait pas. C'était Travolta, mais on faisait un carton. On jouait à Hideaway 3 fois dans la soirée. Les mecs étaient fous. C'est comme si on avait inventé Hideaway, tu vois. Bon, voilà.
Ouais,
donc
ouais.
là, j'ai commencé à me faire un nom. Les gens ont commencé à parler de moi, à voir si j'étais devenu quelqu'un, entre guillemets, puisque...
T'étais devenu une référence dans la région, en fait.
Ouais,
c'est ça,
mais tu vois, mais moi je savais même pas, moi, je faisais, point barre.
Oui, ouais.
Mais déjà, j'ai gagné du pognon. À l'époque, j'ai pu m'acheter une Fender, une Gibson acoustique. Donc, déjà, je faisais plus de merde de boulot, là. En plus de ça, soudeur, c'est assez intéressant. Mais pas à 40 mètres sur des échafaudages qui tiennent, tu vois, à des fils de fer.
Ouais,
bon,
ouais,
voilà, bref.
Ouais.
Et donc, si tu veux, à partir de là, bon, le groupe Mojo Blues, évidemment, il y a eu des changements de personnel parce que on avait fait en 3 mois, genre 100 dates, et le bassiste et le guitariste trouvaient cette vie un peu trop dangereuse, tu vois. C'est vrai que c'est pas évident. En plus, on jouait beaucoup dans le Pays Basque et ça bastonnait là-bas. Il y avait des bagarres. Chaque fois qu'on jouait, les mecs se foutaient sur la gueule. La police arrivait. Et le bassiste et le batteur, au bout d'un moment, ils ont dit, on va s'arranger. Bon, j'ai continué en trio et j'ai fait un hommage à T-Bone Walker avec un sax.
Ah ouais.
Et là, j'ai été repéré parce que j'ai joué beaucoup sur Bordeaux avec cette formation. Et puis, voilà, on m'a proposé, le tourneur à main 6 m'a proposé un engagement. Voilà, ça s'est passé comme ça. Ça n'a pas été facile hein, quand même parce que c'était pas des gens très gentils quand même, le tourneur là.
À quel point de vue? Pas
gentil. Ah, c'est pas très gentil. Enfin, si tu veux, moi, j'avais pas connu ça, mais bon, le mec, avant de monter sur scène, il me dit, t'as pas une cravate? Ah non, non, j'ai dit, je mets pas de cravate.
Ouais.
Ouais, mais il faut une cravate avec mon fils. Et puis, si au deuxième morceau, il te dit de te casser, tu te barres. Tu cherches pas à comprendre.
Ah bah d'accord, oui, en effet.
Quand t'as 22 piges, enfin, tu comprends pas. Enfin, tu, ça veut dire,
ça m'évite dans l'ambiance, ouais, ce genre
c'est
de truc.
C'est parce que t'as envie de la musique.
Ouais.
Cela dit, j'ai pas réfléchi là non plus, tu vois. T'es un peu violent, le batteur là était un peu. Je l'ai arrêté, je lui ai dit, mais écoute, si ça va pas, tu prends ma guitare et tu le fais. La répétition a duré 3 minutes la première fois. Mais en fait, c'est parce que je critique pas ça, mais c'est parce que c'était un versant professionnel américain que je connaissais pas. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Voilà, c'est tout. C'est que les mecs, c'est comme ça. C'est plus comme ça qu'autre chose. Il faut arriver, assurer. Bon, le mec te demande une cravate, c'est pas si grave. Mais bon, dans ma tête, moi, je foutais pas de cravate, si tu veux. Bon, voilà. Et donc, mais j'ai assuré. Et on a fait 2 minutes de répé, j'ai assuré. Et puis, la voix de Memphis, quoi. Mais ça m'est resté dans la tête, quoi. Parce que franchement, et à la fin, mon père a fait des vidéos, là. Parce que j'ai fait une petite tournée après. Quand j'ai regardé, j'ai dit, putain, mais je joue bien, là.
Ça veut dire que tu as toujours des documents vidéo de cette époque-là?
Ouais.
Où tu accompagnes Memphis?
Oui, 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 oui.
Génial.
Mais je n'ose pas les sortir parce que je peux me prendre, si tu veux, une cartouche si ce n'est pas légal, tu vois.
Oui, en même temps, Memphis Slim est décédé en 1988. Ses ayants droit, je ne sais pas, il n'y a pas un peu de prescription, là. Ça fait quand même des années et des années, non?
Ouais, ouais. Alors, j'ai ces bandes-là. Feu mon père, que Dieu et son âme, est mort. Et j'ai des bandes, si tu veux, à rouleau, là. Avant de mourir, il m'a remis ça. Il m'a dit, tiens, ça, c'est tes bandes.
D'accord.
Où tu joues avec Memphis. Alors, je ne sais pas si c'est. Il faudrait... J'ai cherché à essayer de les faire mettre, si tu veux, sur CD. Et j'ai pas encore trouvé. J'aimerais bien, quand même.
Mmh. La personnalité de Memphis Slim, qui en était à la fin de sa carrière, on va pas rappeler le pedigree de ce monsieur, qui est un pilier du blues, né en 1915, qui a joué à peu près avec tout le monde, qui a longtemps été accompagné par Matt Guitar Murphy, carrément. Quelle était la personnalité de ce monsieur à la fin de sa carrière, quand tu l'as bien connu?
Ouais, il était cool, si tu veux. J'ai rien à redire, hein. Bon, il est répété, ça le gonfle. C'est normal, bon, je suis un peu inculte de répéter, il fallait des mecs qui assurent. Moi, j'ai eu la chance, avant de jouer avec lui, d'avoir fait un hommage en quartet à T-Bone Walker. Et le seul à faire ça en France, il faut quand même le dire à l'époque, hein. Sans être prétentieux, personne ne faisait ça. On jouait dans des clubs de jazz, donc j'avais, si tu veux, bien assimilé les techniques de T-Bone que Matt Murphy, tu vois, avait un peu fait la continuité de T-Bone, tu vois,
oui.
En amenant des accents un peu plus jazz. Donc, Memphis, c'était cool. Bon, il arrivait dans une petite voiture Austin, je sais pas comment il rentrait dedans, avec une belle gonzesse. Je pense qu'il avait souvent des belles nanas avec lui. M'a apporté, c'est que je pu m'en sortir parce que c'était compliqué quand même de jouer avec lui sans répé au secours. Et surtout, ces boogies en tonalité, tu vois, polytonalité, il partait en mi, il passait en fa, en sol, en la, si bien.
Compliqué à accompagner, quoi.
Et oui, il faisait des boogies en polytonalité. Il fallait avoir la feuille.
Ah, tu m'étonnes.
Et je m'en suis sorti parce que aussi le tourneur m'a fait. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va jouer? Il m'a dit, je t'envoie les disques. Il m'a envoyé 30 disques. J'ai dit, ouais, mais qu'est-ce que je fais là? Quel disque? Il m'a dit, mais regarde. Et j'ai eu la chance, comme quoi il n'y a pas de hasard, de tomber sur un mec à qui j'ai dit, mais je vais jouer avec Memphis, je suis emmerdé là. Je sais pas qu'est-ce qu'on va jouer. Il me dit, il y a un seul disque, il me dit. Le seul, c'est The Gate of Horns. C'est son album référence.
Mmh.
Et il me dit, je l'ai, je te le prête. Effectivement, on a fait que ces morceaux-là. Voilà. Non, pour répondre à tes questions, Memphis, c'était super cool. Il faisait sa musique tranquille. Après, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont joué avec lui, qui se sont pris des gamelles, hein, parce que tu lui racontais pas la musique. Lui, tu lui apprenais pas la note bleue. Hein. C'est vrai, ouais, le mec, il connaissait. Il est batteur derrière, c'est un Rouennais, grave, quoi.
Lenny Lafargue, avant d'évoquer ton album, on va aussi peut-être évoquer une autre personne, mais un autre personnage de ce côté-ci de l'Atlantique. Ton amitié, peut-être une longue histoire d'amitié avec un certain Jacques Garcia, parce qu'il y a Résus Blues, il y a ton expérience scénique avec le Grand Memphis Lee, mais il y a Résus Blues, il y a Salaise, il y a Ampuy, il y a Châtre-sur-Cher avec le Musée du Blues. Jacques Garcia et toi, c'est une relation de longue date ?
Oui, Jacques Garcia, c'est une relation de longue date. Ça veut dire que c'est un ami quand même, hein. Oui, bien sûr. On n'a pas tant d'amis que ça dans la musique, mais lui, c'est un ami. Alors lui, disons que après Mincissime, tout ça, j'ai grenouillé un peu, à droite, à gauche, je jouais un peu dans des boîtes. J'ai une amie, l'amie d'une amie, qui d'un seul coup était assez proche, venait à mes concerts, me dit, mais à la base, je m'appelais Gérald, hein, mais après, c'est devenu Lenny. Elle me dit, mais t'as pas fait des disques ? J'ai dit non. T'as déposé des morceaux à l'Assassin ? J'ai dit non. Moi, je tournais, si tu veux, j'avais une 403, une caravane, voilà, je tournais comme ça, et je me présentais avec ma guitare les trois quarts du temps, et je jouais devant le mec, je lui disais, ça vous plaît ? Enfin, tu vois, bon, c'est un peu simplifié ce que je dis, mais c'est la vérité. Et elle me dit, écoute, moi, je t'emmène en studio. Donc, j'avais refait un trio, et donc, on est parti en studio, et j'ai fait 10 titres. 5 compos, donc 2 en anglais, parce que j'en fais aussi des compos en anglais, bon, moins, mais j'en fais un peu. Et 5 reprises, voilà. Le truc s'est appelé Freeway. Alors, personne connaît ça, très peu. À part certains qui l'ont, on m'en redemande encore, mais bon, je pense que je ferai pas regraver. Et à partir de là, cette cassette a été envoyée à droite à gauche. J'ai fait, si tu veux, le master guitar à Biarritz. C'était environ dans les années 80, par là. Ouais, où il y avait Paco de Lucia, Sylvain Luc, etc., John McLaughlin. Je me suis retrouvé là. Il y avait un bluesman géré par Garcia. Et la cassette est arrivée sur son bureau. Il m'a rappelé de suite. Ouais. Il me dit, je te signe dans le booking. Et là, si tu veux, je suis passé un cran, puisque, bon, évidemment, Jacques, c'était un booking international, quoi. Mm-hmm. Et donc, je sais, ça lui a plu. Si ça lui a plu, c'est qu'il y avait une bonne raison, parce qu'il connaît, hein. On n'explique pas ce qu'est le blues, hein, Jacques. Et là, je me suis retrouvé, si tu veux, sur les scènes, à rencontrer beaucoup de gens, jouer avec des gens aussi connus. Ça a duré de environ 88 à 92, 93. Voilà. C'est comme ça que je l'ai connu. Et on a fait le premier album qui s'appelle Mauvaise Carte. Oui. Il devait s'appeler French Blues, mais à la base, ça a changé. Ils ont préféré ça. Bon, on a fait le premier album qui était pas si mal que ça, finalement, où j'ai demandé de chanter en français, même si ils étaient assez réticents au début, parce qu'il y avait Jean-Luc Suarez aussi. Et donc, ils ont produit le CD, qu'on a fait en 3 jours, quand même, il faut le dire. Ouais. On s'est tapé ça en 3 jours. Donc, il n'y avait pas un gros budget, c'était quand même pas leur cœur de métier, le label, mais ils avaient commencé à faire Otis Grande, qui a joué sur mon album aussi, voilà. Et donc, on est resté en bon terme avec Jacques, et je peux dire qu'il m'a toujours défendu, il fit toujours un super coup de main, quoi. Bon, c'est quelqu'un, quand même, sans lui, je pense que j'aurais pas eu tout ce que j'ai eu, quoi. Je peux le dire à ce jour, Jacques Garcia, c'est quand même... Et en plus, je le respecte énormément, parce qu'avec sa femme, c'est ce qu'ils font, c'est assez extraordinaire. Ils se vouent à cette musique. Oui. Ils adorent ça.
Et ils viennent d'être récompensés à l'International Blues Challenge de Memphis pour leur musée, oui, du blues. Voilà, moi, je trouve également que c'est
fort mérité. Mais c'est très mérité. Mais d'ailleurs, c'est moi qui ai eu l'honneur de faire
l'ouverture
de la maison du blues. Oui, voilà.
À Châtre-sur-Cher, rappelons-le. Tu évoquais Otis Grand. Est-ce que c'était à l'époque où Pascal Delmas était le batteur d'Otis Grand, dans les années 90 ?
Pas vraiment.
Non, pas encore.
Non, Pascal Delmas, lui, il est intervenu à une époque où Otis a eu des soucis avec son band anglais. Je ne vais pas rentrer dans les histoires, là, mais je sais que ce que j'ai entendu dire, c'est que c'était assez compliqué, là. Otis Grand avait un super band d'anglais. Je ne sais pas ce qu'il y a eu au bout d'un moment. Et donc, il s'est rabattu sur Pascal Delmas et un bassiste aussi, donc je me rappelle pas le nom, de Toulouse. Deux mecs qui en voulaient, quoi. Deux Français qui en voulaient et qui voulaient jouer ça, voilà.
Je rebondis, Lenny, oui, sur ce que tu disais par rapport au blues en français. Le blues en français, toi, donc maintenant, c'est une longue histoire. Est-ce que c'est quelque chose que tu revendiques particulièrement, de chanter en français ?
Moi, je revendique rien, parce que, pour te dire, j'ai jamais rentré dans ces polémiques à la con, ouais, là. Il faut chanter en français, il faut chanter en anglais. Or, Il y a des programmateurs, par contre, qui, dès que tu sors un truc en français, ils te disent « Ouais, tu chantes en français. » Putain, mais je comprends pas ça. Je veux dire, c'est bon, que ce soit en français ou en anglais. Le mec joue, il joue, point barre. Mmh. Après, en Louisiane, on a les Cajuns. On est le seul pays à avoir une culture franco-blues américaine. Les mecs, ils ont pas l'impression de savoir chaigner, mélanger dans ces textes, si tu veux, du français et de l'américain. Ouais. Et là, tu sors une chanson en français, on vient te casser les couilles, te dire « Ouais, mais c'est, tu fais de la chanson française. » Non, mais c'est débile. Après, moi, j'adore reprendre un morceau en anglais. Je suis pas dans ce truc noir-blanc. Il y a le gris entre le noir et le blanc.
Bien sûr, il y en a même plus de 50 nuances, j'ai l'impression. Il y a un garçon qui habite la région bordelaise. Alors, je crois que toi, t'es plutôt au sud de Bordeaux. Lui, il est plutôt au nord, mais vous êtes voisin quand même, c'est Kadijo. Lui aussi, il chante en français, et ça depuis de nombreuses années également.
Vous avez... Oui, c'est moi qui... Kadijo, je le connais bien, c'est moi qui lui ai donné le virus.
Ah ouais.
Oui, oui. Dis donc. Mais il te le dirait, hein, ce que je dis, c'est pas prétentieux non plus, c'est que c'est la vérité.
Mais non, il n'y a pas de prétention à avoir, à partir du moment où on a fait les choses. Quand on dit ce qu'on a fait, c'est pas se vanter, c'est juste expliquer les choses.
Exactement.
On est d'accord.
Ah, si tu veux, oui, voilà. Mais Kadijo, oui, bien sûr, il fait un bon spectacle de blues en français, oui. C'est super. À la base, il chantait qu'en anglais, et après, il m'a dit, ouais, mais putain, moi, je... Voilà, il fait du truc en français, ça m'intéresse aussi. Il l'a fait, et c'est super.
Il chante même en gascon.
Oui, 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 oui. Ben oui, oui, oui. Ce que je veux dire, c'est que si tu veux, peu importe la langue, si ça groove, si c'est bon, ma choriste actuelle est portugaise, elle fait du rock en portugais, et du fado, c'est génial. On va pas dire, ouais, mais c'est du portugais. Quand on écoute, c'est bon.
Écoute-moi mon ange, écoute ma confidence. Veux-tu venir avec moi, loin de tout ça? C'est maintenant, c'est le moment. Après il sera trop tard, si l'on attend. Rouler, rouler, sans se retourner. Loin d'ici, une autre vie. On s'est assez parlé, assez regardé. On s'est compris, on a la même envie. C'est maintenant, c'est le moment. Après il sera trop tard, si l'on attend. Sans se retourner, rouler, rouler, sans s'arrêter. Loin d'ici, et entre vie. rien à perdre, plus rien à faire ici. Il y a du bon temps ailleurs qui nous attend. C'est maintenant, c'est le moment. Après il sera trop tard si l'on attend. Rouler, rouler sans se retourner. Rouler, rouler sans s'arrêter. Loin d'ici et notre vie.
Je pense que si tu veux, les programmateurs, pas tous, hein, parce qu'il y a des programmateurs qui sont moins fermés et qui ont.
Là, on peut parler de Michel Roland, par exemple.
Faire des amis.
Cognac Blues Passion, Michel Roland, t'as programmé, il est prêt à le refaire, j'imagine. Là, voilà quelqu'un.
Mais Cognac, bien sûr, c'est ce que je veux dire. Il y a beaucoup de gens qui gèrent des festivals qui sont intelligents, voilà, éclairés, et qui. Il y en a d'autres, ils te disent non, mais Kingston Chénier, je connais pas. Bon, déjà, bon, voilà. Tu leur dis, mais. Ou d'autres, ils te disent non, mais Jimmy Reed, c'est qui ça? Voilà, bon, alors là, si tu veux, c'est difficile de parler du blues. Bon, je pense que peu importe la langue, si ça groove, si c'est bon, si l'artiste, voilà, a quelque chose à raconter, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est vraiment. Il y a un parti pris, voilà. Mais moi, j'ai pas de parti pris. Moi, j'adore chanter dans mon répertoire. Le morceau de Messissime que j'ai gardé, et j'ai pas pu m'en séparer, Rocking the House. We gonna rock. We gonna roll. Faire ce morceau parce que il est super. Tu vois, je suis pas. Tu me parlais du blues en français. Je suis pas dans cette pensée de dire c'est en français ou c'est anglais. Si c'est en français, alors que il y a beaucoup de gens ici. Si c'est en français, c'est de la merde. Il faut le dire quand même.
Oui, j'ai entendu ça aussi. Mais on vient de citer Michel Roland. On peut citer d'autres programmateurs qui vont au-delà de ça comme.
Éric
Diard, tonton Éric, sur toi, oui. Le territoire. Tu l'as fait aussi ce festival-là.
Oui. Là. Non, mais attention. Quand je dis ça, je veux dire, je resitue ce que j'ai dit. Il y a beaucoup de gens, j'ai fait les plus gros festivals, qui sont ouverts à l'originalité.
Oui.
Et quand tu fais un disque voilà, qui est en français ou avec une reprise, ils sont ouverts. Attention, je généralise pas. Il y a des gens très bien dans le circuit des programmateurs de festivals parce que je les respecte, parce qu'ils font quelque chose qui nous permet de jouer. Après, je dis, il y en a certains qui ont des œillères. Voilà, ils veulent des groupes français qui font de l'imitation américaine de base. Voilà ce que j'ai à dire. Mmh. C'est tout.
Oui, au détriment.
Au détriment de ce groupe qui pourrait faire des choses, tu vois, avec une originalité. Ah oui, ça, c'est ce groupe, dès qu'on met le disque, ça s'entend.
Comme Raoul Ficelle, par exemple, par chez toi, encore une fois.
Exactement. Mmh. Voilà.
On sent chez toi l'influence de Benoît Blueboy aussi pour les textes et puis également pour l'univers musical. Ça s'entend également, encore une fois, dans Rouler, Rouler, qui est ton 10e album, si je ne me trompe pas. Raconter des histoires simples, même parfois autobiographiques, c'est important pour toi, Lenny ?
En fait, j'ai du mal à analyser ce que je fais de toute façon, parce que c'est l'évidence. C'est ce que je fais. Je n'ai jamais appris. Je suis autodidacte. Alors, je raconte des histoires d'amour, principalement,
oui.
Parce que je pense que, en ce qui me concerne, les relations amoureuses, c'est très important, et c'est pas facile. Après, je suis pas un artiste engagé, mais des fois, je dis un peu aussi ce que je pense. Rouler, rouler, ben quoi, c'est une histoire, c'est un mec qui rencontre une nana, puis ils veulent se barrer, quoi. Tout larguer, ils vivent dans un univers, chacun, ils en ont plein le cul, ils veulent se barrer. Mais ça arrive à tout le monde, hein. Peut-être que ça t'arrive à toi, des fois, de te dire, écoute, là, j'en ai plein le cul, je vais me casser à 10 000 kilomètres
sur une île. Ça nous est tous arrivé à un moment donné, je pense, oui.
Ouais.
Et donc, je voulais savoir, parce qu'il y a ce naturel, t'as pas prononcé le mot, mais moi, je le ressens à l'écoute de ce que tu fais, Lenny. Ce naturel qui fait que tu as du mal à expliquer comment tu travailles. Mais est-ce que justement ça demande beaucoup de travail de faire simple et direct comme tu le fais? Ou est-ce que, non, c'est à partir du moment où c'est juste toi, ça tombe sous le sens?
Non, je pense que, si tu veux, je fais une musique. Bon, voilà, j'ai fait, il faut le savoir, beaucoup de formations musicales à la base. Quand j'ai commencé mon histoire là, dans le centre social avec des jeunes délinquants, j'ai toujours eu collé à moi la formation musicale, parce que c'est là que j'ai démarré. Et j'ai amené des délinquants sur la route, ça n'a pas été facile, mais c'était une expérience. Le conseil général, les psychologues sur des tournées, parce qu'il n'y a pas que Paris, hein, la province ça existe. Et donc on se trimballait et on avait 30-40 jeunes délinquants, des vrais délinquants. Mmh. Je parle de ça, c'est quand même, ça remonte. J'ai travaillé dans les prisons avec l'association de Lily le Forestier, tu vois. J'ai été me frotter à des trucs quand même... bon, attention, c'était pas financier, mais ça faisait partie du package musical. On avait quand même, si tu veux, des contreparties. Voilà, bon. Si tu veux, j'ai fait beaucoup de formations musicales. Je peux dire que même à Bordeaux, ils sont tous venus me voir. Et Raoul Ficelle, tous ces gens-là sont passés chez moi. Mais c'était pas un supplice. Je pense que c'était mon karma aussi en tant que musicien de scène et formateur. J'avais les deux trucs. En fait, quand moi, je joue pour moi, j'essaie d'oublier toute convention. Tu vois ce que je veux dire ?
Bien sûr. Ouais.
J'essaie d'être au plus proche et au plus ras de terre de la convention de l'intellectuel. Voilà. Belleville, je l'ai fait sur l'instant présent. J'avais pas de texte, j'avais pas de musique. Je passe du temps à Belleville, j'ai vécu à Belleville pendant 3 mois, dans les années... Le preneur de son me dit, Lily, tu vas pas mettre que 8 morceaux ? Bah, j'ai dit, j'ai que 8 morceaux. Il me dit, mais c'est passé. Et bon, c'est un ami, hein. Depuis le temps, il a fait, je sais pas combien de disques avec moi. Je lui dis, mais attends... J'en ai un de réserve, là. Je me suis assis, j'avais rien. Et je suis parti à la guitare et Belleville, je l'ai fait instantanément, direct.
Je suis à Belleville et je t'attends là-bas. Belleville, enfant terrible, viens avec moi à la maison. J'ai de nouvelles dispositions. Je veux te parler, on ne fera jamais plus marron. Non, 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 écoute-moi. Je ne veux que toi. Tu me manques jour et nuit. Ah, tu me manques. J'y pense et puis j'oublie. C'est comme ça, c'est la vie. Je suis parti trop longtemps, mais rien ne sera plus comme avant. On ne fera jamais plus marron. Ah non, non, non. Écoute-moi. Je ne veux que toi. venu dans ma vie m'a donné ton cœur. Serre ma route sinueuse de baroudeur. Je suis parti trop longtemps et je suis revenu, mais rien ne sera plus comme avant. Écoute-moi, je ne veux que toi.
Oui, ce que je recherche, quand je fais de la formation sur la musique afro-américaine, le rock, tout ça, on est obligé de passer par certaines conventions, de dire au mec, là, t'es pas en place, là t'as un silence, mais quand je joue, pour moi, si tu veux, voilà. Je suis le plus possible, si tu veux, non lettré, quelque part.
Ça s'appelle la liberté, ça, donc ?
C'est ça, voilà.
Tout simplement.
Bon, c'est comme quand je chante au chéri, si tu veux. Bon, ça, c'est une rupture amoureuse. Ben voilà, c'est pareil. Hein. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qui vient de l'au-delà, tu vois. On va dire que je suis mystique. Pourquoi pas.
Au chéri, que va-t-on faire ? Dis-moi, que va-t-on faire ? Entre nous tout fout le camp, rien n'est plus comme avant. On s'est brisé le cœur, mis la rate au courbouillon. Brisé le cœur, mis la rate au courbouillon. En doux et pas cela. C'est comme cela.
C'est un appel de l'au-delà, ça vient de d'ailleurs. D'ailleurs, je pense qu'en ce qui me concerne, c'est ça, parce que j'avais pas prévu de faire une carrière, je pensais pas que j'étais bon. Il a fallu qu'une nana me dise, mais Lenny, tu joues bien, tu joues super bien, il faut que t'arrêtes ce boulot de merde. Ouais, voilà, bon.
Donc c'est en ce sens-là que parfois, Lenny, on peut se dire que le regard de l'autre, c'est aussi quelque chose qui peut être déterminant. Là, tu viens de le montrer, de le prouver, et puis cette carrière qui continue au-delà des décennies, maintenant, Rouler, c'est le tout nouvel album qui contient 9 titres. On l'a dit, y compris Belleville, là, que tu as fait au tout dernier moment. On y trouve également Bon Temps Roulé, Blues King, puis Moi Je Veux Pas Toi, Travailler Dur. Voilà, ce sont des titres qui te sont venus comme ça. Il y a un carnet à spirale, il y a un cahier de brouillon, Lenny Lafargue, sur lequel tu couches tes idées, ou bien tu te dis, ouais, c'est le moment de faire un album.
Oui, quand même, oui. Ça ne me tombe pas du ciel comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Oui, je pars sur des thématiques, si tu veux. Bon Temps Roulé, on l'a fait déjà, c'est un peu un truc fétiche, parce que quand je fais de la scène, il faut faire de la scène aussi pour les gens, quoi. Bon, on fait chanter les gens avec ça, ils aiment bien, hein. C'est un truc, c'est un peu un morceau fétiche qu'on a repris, c'est de notre album. Aïe aïe, aussi, je l'avais déjà fait, mais ça aussi, les gens aiment bien chanter ça avec nous, pour essayer de créer quelque chose, tu vois, parce que le problème, c'est qu'on n'est pas des méga stars, tu vois, dans le blues, il n'y a pas de fric, déjà, et puis on passe pas la télé, il faut quand même être, à moins de jouer avec Calogero.
Par exemple, oui.
Mais non. Alors, donc les concerts, quand t'arrives, si c'est Calogero, il fait un pas sur la scène, tout le monde hurle au génie. Ouais, mais si toi tu te pointes, même si t'es connu, parce que tu es quand même connu, ben il faut gagner le concert. Il faut faire plaisir aux gens quand même, tu vois. Je veux dire, il faut qu'il se passe quelque chose, autrement.
Ça m'en amène à une question à propos du live. Parmi les endroits où tu as pu te produire, les endroits où, selon toi, la musique a été reçue avec le plus d'enthousiasme, c'était où et quand finalement? Est-ce que tu as des souvenirs en particulier qui te reviennent en mémoire, de grands souvenirs de concert que tu as pu donner?
Ouais, partout où j'ai été, ça a fonctionné, je peux te dire. Après, on n'est pas forcé non plus de faire un concert pour avoir un standing ovation à chaque fois. C'est pas non plus, tu vois. Voilà, on peut faire un concert qui se passait bien. Bon, je me rappelle d'un concert, tu citais Jimmy Johnson, où j'ai joué en première partie, ouais. Où finalement le public a été très sage, mais ils étaient contents. Voilà. Après, dès que j'ai eu attaqué des 1000-2000 personnes, bon, tu vois, tu te fais peur un peu. Plus maintenant, parce que maintenant j'ai plus l'habitude, mais... Ben, je pense que j'ai un grand souvenir sur Bagneux Blues Night. Il y avait Lurie Bell et qui jouait.
Bagneux, c'est un festival un peu particulier, Lenny, parce que c'était peut-être à l'époque, jusqu'au début des années 2000, effectivement, jusqu'à ce que le festival disparaisse, le rendez-vous parisien des amateurs de blues. Bien sûr, c'était le club qui organisait ça depuis des années. Tu étais sûr de jouer devant des gens qui connaissaient Jimmy Reed, ben, ou Clifton Cheney, par exemple. Donc là, voilà, c'était un peu une espèce de baptême du feu pour les gens qui démarraient, ceux qui commençaient connaissait jouer à Bagneux, ben, il savait qu'il jouait devant des amateurs puristes, peut-être.
Pour oui, certains. C'est ça, oui. Mm. Bon, après, tu sais, tous les festivals que j'ai fait, Marc, j'ai pris un grand plaisir. Hein, Cognac, bien sûr, et Michel Roland, qui est génial, j'adore, qui m'a souvent programmé. Hein. Vraiment, j'y suis passé à Cognac vraiment plusieurs fois. Il n'a jamais hésité à me programmer. Alors que souvent, on fait un festival une fois, bon, Cahors, tout ça, bon.
Oui.
Salaise, plein de tous les gros trucs. Franchement, j'ai pris grand plaisir. Bagneux, si tu veux, bon, pour moi, ça a été un événement marquant. Jacques Perrin, ça, la rencontre à Jacques Perrin, ça a été super. D'une gentillesse, sans me faire de cadeau non plus. Hein, c'est-à-dire que, voilà, il m'avait programmé, il fallait que j'envoie, quoi. Il fallait pas que je prenne une tôle. Hein. C'est, voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, on a beau être connu dans notre circuit, chaque concert, voilà, il faut... C'est pas qui.
Ben en fait, à chaque fois qu'on va se produire dans un concert de blues en tant qu'artiste, il y a des gens qui te connaissent, qui savent à quoi s'attendre et qui aiment bien aussi être surpris parfois, mais il y a aussi une grande foule de gens qui ne connaissent pas de toute façon le nom de l'artiste qu'ils vont voir.
C'est ça.
Et il faut quand même se remettre en question peut-être à chaque fois, non ? C'est ça que tu ressens aussi ou...
C'est pas une remise en question parce que bon, je doute pas quand même, je sais ce que je peux faire.
Oui.
Je sais que je peux envoyer. J'ai un batteur, ça fait 20 ans qu'on joue ensemble, le bassiste 15 ans. Si j'ai un guitariste, ça sera un bon, ça sera Stan. Là, sur l'album, j'ai une super choriste. Je sais que j'ai une équipe, tu vois, je vais pas amener des charlots. Et on va faire de la musique, on va faire en fonction que ça le fasse. Et qu'on prenne du plaisir aussi, tu vois. Moi, je pense que peut se produire sur les festivals en étant, bien sûr, méconnu de certaines personnes.
Oui.
Mais, comme j'en viens à dire tout à l'heure, si t'es sur une scène et que c'est bon, que ça va, bah, t'as gagné des fans, tu vois. Et à chaque fois, c'est ce qui se passe pour moi. Des gens viennent me voir. Bon, tu sais, pour la sortie de Rouler, on a pris une salle excentrée. Il s'appelle Le Garage, en banlieue de Bordeaux. J'avais pas envie d'aller trop dans un endroit. C'était sold out, booké. Il y avait 250 personnes par là.
Ouais.
Mais ça a été formidable, quoi. Et il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient là dans cet endroit qui nous connaissaient pas. Bon, on a passé un super moment. On a fait de la musique, ça a été super. Bon, voilà, les gens étaient contents.
C'est bien l'essentiel, hein, de toute façon, à partir du moment où tu te produis, ouais, c'est pour faire plaisir aux gens. Si on parlait un peu promo, parce que, effectivement, tout le monde ne connaît pas tout le monde et à chaque fois qu'il y a un concert qui se déroule, c'est forcément devant des gens qui découvrent. Mais au niveau promo, comment est-ce que tu t'y prends, toi, pour faire découvrir ton univers ? Il y a des gens qui ont recours à des agences de presse, à un label, les plateformes qui semblent devenir un support incontournable en 2024 pour un artiste. Comment est-ce que toi, tu fonctionnes, toi qui n'es pas vu à la télé, comme tu disais tout à l'heure ?
Ouais, moi, j'ai fait des télés, mais il y a longtemps. Hein. Maintenant, ouais, c'est fini. Les médias, de toute façon, les médias, là, maintenant, c'est devenu... C'est impossible. Les médias, c'est impossible. Et d'ailleurs, c'est un ami à moi qui est là-dedans, qui m'a dit, mais bon, les médias, bon, c'est très compliqué. Bah, écoute, j'avais une secrétaire, hélas, jusqu'à présent, mais elle est malade, là. Bon, donc on se démerde de bric et de broc pour la promo. On a trouvé quelqu'un d'autre pour la remplacer. Et c'est pas la peine d'aller prendre un agent de presse qui va te prendre 2000 balles pour rien branler. Et branler ce que toi, tu peux faire. C'est-à-dire
effectivement,
envoyer...
Si toi, tu peux le faire... Pas
bah, envoyer 2000 ou 5000 euros à quelqu'un qui va envoyer des trucs à la chaîne du blues.
Peut-être pas qu'au niveau du petit monde du blues, mais peut-être aussi à d'autres médias plus généralistes à qui ça arrive de temps en temps de découvrir des artistes qui font pas partie de la
médias. Oui, on a fait des radios parisiennes avec un plug. Mais là, tout est parti. On attend un petit peu, si tu veux, des retours, quoi.
S'élève au-dessus de la rivière rouge qui porte les stigmates de la mémoire du temps passé. Il y a des jours où le ciel s'illumine de lumière incandescente. Dans le ciel, les anges et tous les saints chantent ton cœur, Blues King. Un ange noir est venu un jour parler à la gitane. Il lui a dit tu auras un enfant. Il n'y en a plus pour très longtemps. Il jouera la musique bleue pour rendre les gens heureux. Dans le ciel, les anges et tous les saints chantent en chœur. Blues King, Blues King, Blues King. Jackson, Mans Liscombe, Lanny Hopkins, Jimmy Reed, Devon Walker, Hooker, Muddy Waters, Slim Harpo, Sonny Boy.
Cet album donc, qui s'appelle Rouler Rouler de Lenny Lafargue qui vient de sortir. Les projets pour la suite, c'est bien toujours la scène, j'imagine, continuer à défendre ce disque et puis ton répertoire d'une manière générale. J'avais quand même une question par rapport aux États-Unis que tu évoquais tout à l'heure, mais c'est vrai que quand on écoute ta musique et pas que cet album, hein, si on devait imaginer un voyage idéal aux États-Unis, allez, tu es le guide touristique, c'est toi qui emmènes un petit groupe de personnes, tu vas les emmener où pour découvrir le blues? Ça passerait par quels endroits?
Une question difficile parce qu'un voyage découverte, c'est intéressant. De toute façon, que ça soit... Moi, je réside pas mal au Maroc. J'adore le Maroc.
Ah oui.
Franchement, j'y vais souvent. J'ai découvert ce pays et découvrir ce pays, c'est toujours intéressant. Le problème des États-Unis, si on prend, c'est ce que je dis, personnellement, aucun bluesman français a fait une carrière aux États-Unis. C'est quasiment impossible. Ceux qui te disent ça, c'est des mythomanes. Bon.
J'en connais un quand même. Il y a une petite exception. Ah. C'est un garçon qui a fait partie de l'équipe de Soulbag, il y a des années, qui est installé en Californie depuis plus de 40 ans, c'est Frank Goldwasser, aka Paris Slim, tu vois.
Ouais, alors oui.
Ça va être l'exception.
En plus, j'adore ce monsieur-là, Frank Goldwasser.
Ouais.
C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, musicalement et humainement, j'aime beaucoup, oui, c'est vrai. Là, je faisais un oubli. Mais sinon, si tu veux, ils n'ont pas besoin de nous, franchement,
c'est
d'accord.
Mmh, bien sûr.
C'est leur musique. Ils ont tout ce qu'il faut et plus qu'il en faut. Bon, alors après, aller aux États-Unis pour aller découvrir, oui, mais qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose. Si je devais aller quelque part, ça serait plutôt vers le Texas, la Louisiane, où il y a encore, si tu veux, une activité qui est, prolixe.
D'accord.
Alors, dans le Mississippi, Jacques Garcia y a été, il a des connexions, mais je sais pas, si tu veux, si... Faut quand même dire quelque chose, c'est que c'est quand même une musique qui a du mal à persister dans certaines régions. Pourquoi? Parce que financièrement, ça ramène rien, quoi. Tu vois?
Le blues côtoie souvent la misère, on est bien d'accord. Après, on parle du vrai blues, celui qui se joue encore dans les juke joints dans le Mississippi, encore à l'heure actuelle.
Ça vaut le coup d'y aller.
Ouais,
ouais, ça serait là-bas, Mississippi, en faisant un petit tour par la Louisiane. J'ai pensé à ça, d'amener de faire un périple comme ça, ça me plairait bien, ouais.
Lenny Lafargue, on en arrive au terme de cet entretien. Je voulais savoir, en guise de toute dernière question, mais tu vas voir, elle est vraiment ouverte, cette question, après avoir écouté plusieurs extraits de Rouler Rouler en fin d'interview, quelle est la question que je ne t'ai pas posée, mais à laquelle tu voudrais quand même répondre?
Demande-moi si demain je vais à la pêche.
Et oui, parce que ça, c'est aussi une de tes passions. S'il fait beau demain, tu vas aller à la pêche, forcément. Mais s'il pleut aussi, on est d'accord qu'il vaut mieux y aller quand il pleut.
Disons que, oui.
Dans le bassin d'Arcachon,
si
c'est ça?
Bon, moi, je vais un peu partout.
Hein. Ouais.
Ouais, j'aime bien, mais j'aime pas que la pêche. J'aime aussi vivre dans la nature. Moi, j'ai essayé de vivre à Paris. Hein. J'ai essayé.
Oui,
j'y suis pas arrivé.
Belleville, notamment.
Mais j'y suis pas... Encore Belleville, ça va. Je me sens chez moi, là-bas. Mais j'y suis pas arrivé au niveau humain. Voilà. Si tu veux, Voilà, humainement, j'attache beaucoup d'importance à ce que je vis. Et dans la musique, c'est pareil. Je peux pas jouer avec des musiciens. J'ai rencontré des mecs, des Français, je devais jouer avec eux. Rendez-vous au bar. Bon, non. Moi, je marche pas comme ça, tu vois. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose d'humain, tu vois, qu'il se passe quelque chose. Autrement, c'est quoi, là? Qu'est-ce qu'on fait, là? Donc, j'ai été au Maroc la dernière fois, là. J'ai passé 3 semaines. J'ai monté dans l'avion. Un Marocain s'est assis un jeune à côté de moi. Il discutait, il me parle de son métier, il me demande ce que je fais. Et à la fin, il me dit, c'est que tu vas à Casablanca. J'ai dit, à Casablanca, j'ai un appart là-bas. Il me dit, tu viens manger le tagine demain chez moi?
Eh oui.
Bah, j'ai dit oui, mais je veux pas non plus déranger. Il me dit, non, je t'invite à manger le tagine demain chez moi. Voilà, ben, t'as tout compris.
Tout simplement, voilà.
C'est des valeurs.
Ben oui, ça s'appelle une petite leçon d'humanité, tout simplement, Lenny. Hein.
C'est ça, et puis c'est ça. Si tu, maintenant, en France, tu interpelles quelqu'un pour lui demander ton chemin ou tout ça, ou ça m'arrivait encore hier, j'ai été chercher un truc que Thomas m'avait... Je savais pas où c'était, le dépôt. Je vois une jeune femme, je m'approche pour lui demander. Elle a fait 4 pas en arrière, tu vois, et elle m'a pas laissé parler une seconde. Elle a pris peur. Alors, je veux pas généraliser, si tu veux, mais bon, c'est important quand même, si tu veux... J'ai l'impression qu'on vit dans un pays de plus en plus flippé, là.
Oui,
c'est pas ça ce que tu ressens.
Si. Je pense qu'on devient de plus en plus égocentrique et chacun est replié sur lui-même. De toute façon, c'est une des caractéristiques de cette période, de cette époque-là. Ah ouais, c'est sociétal. Hein. Écoute, on va conclure là-dessus, Lenny, si tu veux bien. Je voudrais te remercier.
Je te remercie.
Non, mais moi, c'est moi qui te remercie de la sincérité de tes réponses, d'abord, et puis de l'humanité de cette interview qui a été peut-être moins axée sur la musique et peut-être plus sur les relations humaines d'une manière générale. Et c'est pas à chaque fois. Donc merci pour ça, Lenny.
Bah, c'est moi qui te remercie.
Et puis,
j'ai répondu avec grand plaisir.
Longue vie à la suite de ta carrière et à cet album qui s'appelle Rouler, Rouler, qu'on continue d'écouter dans Sweet Home Chicago. Merci Lenny Lafargue, à très bientôt.
Merci Marc, à bientôt.
Au revoir, salut. Merci. Merci à Lenny Lafargue, avec toi on a écouté Sonny Terry et Bronnie McGee avec Hootin' the Blues, Ray Charles avec What I Say, Furry Lewis avec Furry's Blues, Freddie King Hideaway, Memphis Slim avec Everyday I Have the Blues, et puis son hommage à Pine Top Smith, Pine Top's Boogie Woogie, et puis Lenny Lafargue, plusieurs extraits de son album Rouler Rouler, avec le titre album, avec également Rocking the House de l'album Blues Hymns en 2013, Belleville, Oh Chérie et Blues King, extrait de Rouler Rouler. On termine avec Bon Temps Roulé, Lenny Lafargue.
Et tout le monde, venez par ici. La vie est courte et quand t'es mort, c'est fini. Oh laisse le bon temps rouler.
Laisse le bon temps rouler.
Oh laisse le bon temps rouler.
Laisse le bon temps rouler.
Que tu sois jeune ou vieux, viens par là, laisse le bon temps rouler. Mais reste pas là à faire galoper ta bouche. Si tu veux t'amuser, tu dois dépenser ton argent. Oh laisse le bon temps rouler.
Laisse le bon temps rouler.
Oh laisse le bon temps rouler.
Laisse le bon temps rouler.
Que tu sois jeune ou vieux, viens par là, laisse le bon temps rouler.
Bon temps roulé, Lenny Lafargue sur l'album Roulé Roulé avec au cœur Hélène Silva, à la basse Greg Ricois, et puis sur trois morceaux de l'album, c'est Ben Balzan qui prend la basse et puis Philippe Eliez à la batterie. Lenny Lafargue, voilà, merci encore. Et puis rendez-vous samedi prochain pour de nouveaux invités, Alcibella, Jack Ellis et Mr. Chicky Veyman pour leur actualité et la sortie de leur album avec le groupe Jack Ellis and the Contraband. Jean-Pierre Vignola pour la soirée blues de jazz à Vienne qui aura lieu le 3 juillet 2024. Il y aura des places à gagner. Et puis Beatles Song Story numéro 47 par Jackie Emery. Salut, bye bye.